Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. Vous êtes dans l'arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, concertation sur l'avenir du quartier Beauchardonnais à Rennes, interview avec Mathilde Mancheron de l'ADEME pour parler du programme A Vélo 2. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à l'écomusée de la Bintinet pour découvrir la nouvelle exposition sur le cuir à voir jusqu'au 1er septembre 2024. Et puis, recommandation, un marché de Noël solidaire ici à Rennes ce week-end. Bienvenue dans l'arène. Allez, comme chaque jour, on débute cette émission avec une info du jour que j'ai choisie pour vous. Après la concertation sur les ZFE, les zones à faible émission dont on a parlé en début de semaine, autre concertation menée par la ville, cette fois sur l'avenir du quartier Beauchardonnais à l'est du centre-ville de Rennes. Cette ZAC, zone d'aménagement concertée, elle a été créée il y a maintenant 20 ans, en 2004 donc. Les premiers habitants, ils sont eux arrivés en 2017, ils sont aujourd'hui 2000 pour un petit peu plus de 1000 logements. Et ce projet, il s'étend sur une superficie de 35 hectares. La nouvelle phase de développement qui s'ouvre et dont on va parler, c'est la deuxième et dernière phase et elle concerne la moitié de cette surface de 35 hectares. Une concertation pilotée par la ville de Rennes et l'aménageur Territoire Public débutera demain, samedi 16 décembre. Concertation auprès des habitants du quartier, mais aussi de l'ensemble des Rennaises et des Rennais, pour ajuster les futurs aménagements, futurs espaces publics, les équipements et les services. Il y a notamment une école qui est attendue pour septembre 2020. 2024, mais aussi pour définir, ajuster, préciser les questions d'habitat et d'architecture ou encore celles de mobilité. Au programme de la journée de samedi à partir de 10h et c'est jusqu'à 12h30. Tout d'abord, une rencontre aux écoles créatives en présence d'élus, suivie d'une promenade exploratoire dans le quartier en compagnie des architectes et des paysagistes du projet. Un panel citoyen sera ensuite constitué avec une envie que ce soit un panel diversifié. 30 habitants dont les réflexions alimenteront ensuite ce projet dans le quartier Beauchardonnais à travers 4 ateliers qui seront organisé entre janvier et avril 2024. Comme à chaque fois, le détail sur ces questions est à retrouver en ligne sur le site metropole.rennes.fr. Allez, après cette info du jour, place à une interview.
Bien, bonjour, je suis Mathilde Mancheron, donc animatrice du programme C2E à Vélo 2, donc depuis son lancement en 2021. Et je travaille depuis 3 ans maintenant au pilotage de ce programme C2E qui va se terminer bientôt en 2024.
Vous travaillez pour l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a des délégations un peu partout en France. Peut-être que les auditeurs ne connaissent pas bien cette agence et puis ses missions. Comment est-ce qu'on peut résumer ça ?
Alors, c'est l'Agence de la transition écologique. Désormais, et qui œuvre en fait vraiment, qui est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources, donc qui va vraiment s'investir dans de nombreux secteurs, dans la transition écologique et énergétique, et qui va aussi avoir un rôle important d'expertise, qui va rassembler de nombreux acteurs, des parties prenantes, qui vont avoir leur rôle à jouer pour vraiment atteindre les objectifs environnementaux.
Vous travaillez dans le service transport et mobilité. Est-ce que vous sauriez me dire combien vous êtes dans les équipes et puis un peu les grandes missions de ce service-là ?
Alors, le service transport et mobilité, donc, qui est un des sièges de l'ADEME, qui est basé en partie, l'équipe est répartie en partie à Paris et à Valbonne. Donc, le service transport et mobilité est composé à peu près de plus d'une quarantaine maintenant de membres. L'effectif a un petit peu augmenté dernièrement, donc je ne pourrais pas vous le dire précisément. Et donc, on a des équipes qui œuvrent sur des thématiques variées du secteur des transports, que ce soit les carburants alternatifs, l'hydrogène, les mobilités actives, dont je fais partie, et encore bien d'autres thématiques, bien sûr, qui incluent le transport des personnes, mais aussi des marchandises.
Donc vous travaillez pour le service transport et mobilité. Là, on se retrouve à Rennes, qui héberge une des directions régionales de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. La direction Bretagne comprend une équipe d'une vingtaine de personnes, c'est ça, hein ?
À peu près, oui.
Une vingtaine de personnes qui travaillent ici. Si on se retrouve à Rennes, c'est au moment d'une annonce de lauréat, comme on s'est présenté ?
Alors non, c'est plutôt vraiment une journée fondatrice pour mettre à l'honneur les lauréats effectivement du programme, mais qui reste ouverte à toutes, hein, toute personne intéressée et qui souhaite œuvrer pour les mobilités actives. Le bienvenu, la bienvenue. Et l'objectif, c'est vraiment, entre autres, de permettre aux lauréats, aux territoires de se rencontrer, d'échanger. On sait l'importance de l'échange et de la dynamique collective pour encourager les synergies et atteindre les objectifs.
On se parle le jeudi 14 décembre, donc lors de la mise en lumière des lauréats du programme C2E à vélo 2, C2E pour certificat d'économie d'énergie. Ce programme, il a été lancé depuis 3 ans. Comment est-ce qu'on le présente ?
Alors c'est un programme C2E effectivement lancé, créé en 2020 par un arrêté de création et lancé en 2021, donc avec sa première déclinaison opérationnelle pour atteindre les objectifs du programme, un appel à projet qui a été lancé en 2021, un deuxième appel à projet qui a été lancé en 2022. Et pour résumer ce que c'est à Vélo 2, eh bien c'est un programme qui s'adresse aux collectivités et notamment les territoires peu et moyennement denses, là où la part modale du vélo est en recul. Donc le programme s'articule autour de 3 axes principaux. Le cofinancement d'études, le cofinancement de services et le cofinancement de campagnes d'animation et de communication, ce qui est vraiment pour nous des piliers pour la construction d'une politique cyclable intégrée et en cohérence avec les besoins d'un territoire.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'ADEME donc, finance des chargés de mission qui développent là, ce programme dont on parle, ces 2E à vélo 2, et puis ceux qui financent les actions qui vont être mises en place par les territoires, ce sont en fait les fournisseurs d'énergie, et parmi eux, ceux qui sont plutôt dans le champ des énergies fossiles, j'ai noté pour les plus connus, Esso et Total Direct Energy. L'idée, c'est de rendre obligatoire leur participation à la transition écologique, on peut le dire comme ça.
Alors, c'est le principe des obligés financeurs. Alors, je ne maîtrise pas tout à fait tout l'étendue de ce champ-là, mais ça fait partie de leurs obligations de justifier d'économies d'énergie. Et les dispositifs C2E, tels que le programme à vélo 2, sont un des moyens de le justifier.
Là,
on a effectivement 10 obligés financeurs pour à vélo 2. On en avait 7, par exemple, pour à vélo.
Là, c'est une enveloppe de 25 millions d'euros qui a été mobilisée pour venir soutenir des projets sur 437 territoires, donc peu denses, et pour essayer de développer les aménagements cyclables et la pratique du vélo plus généralement. En Bretagne, 62 lauréats. Est-ce qu'on peut donner des exemples de lauréats qui sont mis en lumière aujourd'hui et puis d'actions qui sont associées concrètement ? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ?
Oui. Alors, la partie opérationnelle du programme, donc c'est les appels à projets qui ont permis d'avoir cette enveloppe, enfin plutôt ce vivier de 446 territoires annoncés lauréats, 437 effectivement qui continuent d'œuvrer activement pour leurs actions. Et côté action, on rejoint la partie, les axes du programme, donc les études, et notamment le plus connu c'est le schéma directeur cyclable, avec aussi des études de maîtrise opérationnelle, préopérationnelle, enfin des études de faisabilité. On a l'axe 2 qui va financer par exemple des services vélo, alors par service des services de location longue durée, du prêt vélo, des compteurs, la mise en place de totems de réparation par exemple. Et le troisième axe en lien avec le programme, c'est des campagnes d'animation, de communication pour sensibiliser vraiment les gens à la pratique du vélo, la pratique quotidienne du vélo. Et s'ajoute pour ces appels à projets, un quatrième axe, aussi bien l'appel à projet en 2021 que celui en 2022, c'est l'axe pour financer le recrutement de postes de chargé de mission. Alors, chargé de mission vélo, chargé de mission mobilité active, qui va vraiment être le chef d'orchestre pour coordonner, piloter ce programme d'action à Vélo 2. Et aujourd'hui, on a accueilli surtout, principalement des lauréats à Vélo 2, et on a accueilli 3 collectivités qui ont témoigné de leur projet, qui est encore en cours. C'est parce que le programme, je le rappelle juste, se termine en 2024, donc c'est un peu un bilan à mi-parcours. On a accueilli la commune de Clohars-Carnoët en Finistère avec la personne d'Éric Badoc et de Vincent Nicole, donc qui eux ont fait une étude de faisabilité pour pallier à une discontinuité importante. Ils expliquaient que si on ne passe pas à Clohars-Carnoët, on ne vient pas à Clohars-Carnoët. On a accueilli la communauté de communes Bayeux Intercom, la personne de Mélanie Lepoultier et Paul Hamelin, qui ont présenté entre autres également leur schéma directeur cyclable et l'importance à l'échelle d'une EPCI de pouvoir collaborer, travailler avec les communes membres pour qu'elles adhèrent également au projet. Et on a accueilli Fougères Agglomération en la personne de Mathieu Rimbaud et de Madame Anne Perrin, qui nous ont un peu plus détaillé cette fois-ci ce qu'ils parlait aussi de l'axe 1 qui avait été beaucoup détaillé, mais ils nous ont parlé un peu plus de l'axe 2 avec leur service de location et la partie animation communication, souvent le grand oublié mais qui est pourtant essentiel si on veut vraiment embarquer un maximum de personnes sur ces thématiques.
Au cours de la journée, il y a aussi eu une intervention plutôt côté recherche d'une personne plutôt spécialisée en psychologie, également des témoignages de jeunes qui défendent l'usage du vélo. Est-ce que l'ensemble de ces apports, ça permet aussi peut-être d'identifier certains freins qui restent à lever pour continuer à développer le vélo sur ces territoires-là ?
Complètement, on a eu effectivement l'intervention de Léa qui était catée, je m'excuse si j'ai écorché son nom, elle m'a dit de l'appeler Léa, qui a fait avec son compagnon un parcours de 19 000 km sur les routes d'Europe à vélo, qui nous racontait, c'était très intéressant, qu'elle n'était pas du tout portée sur le vélo avant, que ça a été vraiment un défi, un challenge dont ils sont ressortis avec beaucoup de fierté, on les comprend, puisqu'ils ont passé un an et demi sur les routes, sur un vélo mécanique, je précise aussi, parce qu'on parle beaucoup du VAE qui s'est développé, mais eux c'était un vélo mécanique, et qui a permis de montrer aussi que c'est possible. Et on a eu l'intervention de Monsieur Xavier Brisebois sur effectivement le domaine de la psychologie sociale, pour amener vraiment aussi un angle nouveau pour s'intéresser aux mobilités, mais en prenant un angle différent de celui qu'on a peut-être parfois l'habitude de prendre. Et c'était justement un peu le cœur de son sujet, c'est que l'être humain est un peu irrationnel ou rationnel, je ne sais plus, mais en tous les cas, il a certaines habitudes, ces mécanismes du cerveau, ces habitudes que l'on a et qui font que on a justement beaucoup de mal parfois à se départir de ces habitudes-là et à changer de comportement. Et c'était l'objectif, c'était de voir quels étaient les leviers possibles, comprendre l'humain, son fonctionnement, son comportement, ce mot est revenu souvent, pour trouver d'autres pistes, d'autres alternatives pour l'encourager vers des mobilités moins carbonées.
Vous avez cité le VAE, vélo à assistance électrique.
Vélo à assistance électrique qui a pris énormément d'ampleur et qui, dans certains territoires, a permis vraiment un boom de la pratique cyclable, puisqu'on est en Bretagne, alors il y a un petit peu de dénivelé, mais c'est différent quand on va par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans les Pyrénées, même La Réunion qui est un des lauréats à vélo 2, enfin, il y a de nombreux territoires lauréats à vélo 2 à La Réunion, et des retours qu'ils m'ont fait, en tout cas la référente mobilité en direction régionale, ça a vraiment permis de booster la pratique, l'arrivée de ces vélos assistance électrique. Et ce que je peux ajouter, c'est que ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, un vélo électrique peut coûter cher, c'est pas forcément quelque chose d'accessible, même un vélo mécanique. Donc l'idée, c'est pas forcément d'acheter tout de suite un vélo sans avoir vraiment pu le tester, parce qu'on peut vite se dire, ce n'est pas pour moi, et quand il pleut, j'ai peur, c'est trop dangereux, je peux glisser. C'est pour ça que le programme à vélo 2 permet aussi de mettre le soutien de services de location longue durée. Donc on va d'abord tester sur une durée donnée, 1 mois, 6 mois, 12 mois, avant de se lancer dans l'achat d'un vélo, et c'est là où l'État, la région peuvent prendre le relais avec par exemple de l'aide à l'achat.
Mathilde Mancheron, animatrice du programme C2E pour certificat d'économie d'énergie à vélo 2, merci beaucoup.
Merci à vous.
York sur Canal B avec le morceau Zara. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à Canal B. Un titre à retrouver sur l'album Hopeless qui est sorti le 27 octobre, sur le label de Joe York, à savoir Rhythm Steady. C'est le troisième disque de ce chanteur, auteur-compositeur et producteur qui nous vient du nord de l'Angleterre et qui a beaucoup fait parler de lui sur la scène sound system reggae international, en tout cas ces dernières années. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Vous pouvez l'entendre sur canalb.fr, sur le 94.0, après quelques soucis de diffusion qu'on a rencontrés, mais normalement tout roule là, au moment où je vous parle, avec un déménagement de notre antenne qui a été couronné de succès. Allez, c'est maintenant l'heure d'un reportage. Reportage sous forme de visite guidée à l'écomusée de la Bintinet à Rennes. C'est à 20 minutes à pied du métro au Triangle. Je l'ai expérimenté hier sous la pluie. Écomusée qui accueille une nouvelle exposition depuis la fin du mois de novembre et à voir jusqu'au 1er septembre 2024. Cuir, une matière à fleur de peau. C'est le thème exploré avec une grande place qui est laissée aux objets et à la matière. Bottes rouges, tabliers de forgeron, harnais. Le cuir est une matière universelle chargée de symbolique et qui stimule nos imaginaires depuis des siècles. Mais derrière les objets du quotidien se cache l'animal. De ses secrets de fabrication à son histoire locale, cette exposition, c'est l'occasion de découvrir le cuir dans tous ses états. Les tarifs vont de la gratuité jusqu'à 4 euros. Plus d'infos sur le site écomusée-rennes-métropole.fr.
Alors, pourquoi une exposition sur le cuir à l'écomusée ? Parce que effectivement, il y avait une activité autour du cuir qui était très importante à Rennes, et notamment au 19e siècle, où là, c'est vraiment le plus fort de l'activité. Alors, je suis Marie Pichard, commissaire et chargée de projet de l'exposition « Cuir, une matière à fleur de peau » à l'écomusée de la Bintinet. Donc l'objectif de l'exposition, c'était de renouer avec cette histoire ancienne et puis aussi de mettre en valeur ces savoir-faire qui effectivement sont anciens, mais on verra tout au long de l'exposition qu'en réalité aujourd'hui, même s'il y a eu des évolutions techniques, on utilise toujours ces savoir-faire et on exécute les mêmes gestes. Donc effectivement, la Bretagne, c'est une terre d'élevage, et encore aujourd'hui. Et ça, c'était un des points forts de l'ancrage de cette activité en Bretagne, de l'activité du cuir en Bretagne. Parce qu'il fallait de la matière première, donc des bêtes qui étaient élevées pour le lait et pour la viande, et puis qu'ensuite partaient à l'abattoir, ou étaient tuées par les bouchers. Il fallait aussi du sel, parce que comme on va le voir plus tard, il faut du sel pour conserver la peau. Et en plus, autrefois, la Bretagne ne payait pas d'impôt sur le sel, la fameuse gabelle. Donc tous ces facteurs-là faisaient que il était plus facile de développer cette activité sur ce territoire.
Là, on est encore à l'entrée de l'exposition. On va aller faire un tour juste après. On s'aperçoit déjà dès l'entrée qu'il y a beaucoup d'objets qui sont exposés. Peut-être dire un mot sur les sources. Elles sont nombreuses, en fait, celles qui ont participé, qui ont prêté des objets. Il y a des musées, des tanneries.
Oui, tout à fait. Donc, on a eu la chance d'avoir beaucoup de prêteurs, donc aussi bien des musées comme le musée du cuir et de la tannerie à Château-Renaud, que le musée du compagnonnage à Tours, que aussi des prêteurs particuliers qui nous ont donc prêté des objets réalisés en cuir, mais aussi au sein même des collections communes entre le musée de Bretagne et l'écomusée de la Bâtinais, et bien on a pu aussi présenter un peu moins de la moitié des objets de nos collections. Donc cette exposition, c'est aussi une façon de mettre en valeur ces objets du quotidien que l'on connaît, hein, mais on ne sait pas toujours comment est faite cette matière. Et effectivement, grâce aux prêts notamment des tanneries, de différentes tanneries, on a pu aussi présenter différents cuirs et montrer la diversité de ce matériau.
On va pouvoir s'élancer dans l'exposition
Elle est découpée en 5 parties, c'est ça ?
C'est ça. L'idée, c'est qu'on a voulu un petit peu remonter le cours de l'histoire du cuir. Alors, c'est-à-dire qu'on a voulu lever le voile sur cette activité. Et donc, dans une première partie, on débute par l'objet du quotidien avec une approche très sensible. On voit une multitude d'objets qui, en fait, ont pour lien commun cette matière, le cuir.
Donc, parmi les objets là qu'on voit, des blousons en cuir, qu'est-ce qu'on peut citer ? Des bottes, des sacs à main, des fauteuils, je crois voir un tambour peut-être là-bas.
Effectivement, il y a une diversité d'objets qui est sensationnelle. En fait, on voit que le cuir peut très bien être utilisé dans des métiers comme la forge, avec ces gros soufflets qui servaient à alimenter le feu, ou alors pour la navigation. Là, on présente une embarcation qui est faite avec une peau de bison qu'on appelle le coracle, et qui est une embarcation très ancienne, puisqu'à l'époque préhistorique, on pouvait trouver ce type de bateau. Et sinon, devant nous, on a une très belle paire de bottes noires, rigides, qui s'appelle en fait une paire de bottes de postillon qui était portée par le conducteur de diligence qui allait de poste en poste.
Elles paraissent immenses.
Alors elles sont immenses parce qu'en fait ce sont des surchaussures.
Ah ouais, okay.
En fait c'est extrêmement dur et donc en fait le postillon glissait ses pieds qui étaient déjà chaussés et c'était des surbottes qui lui permettaient de se protéger en cas d'accident si le cheval chutait pour éviter d'avoir les jambes écrasées.
La partie 2, les secrets de fabrication, on se dirige vers celle-ci.
Allons-y. Alors là, effectivement, nous sommes à l'entrée d'une tannerie. Il faut s'imaginer qu'on arrive dans un atelier. Le boucher vient de nous vendre des peaux salées, toutes crottées avec des mamelles, des pies, des cornes qui restent accrochées parce que le tanneur va acheter la peau au poids. Donc il faut que ça pèse lourd. Donc là, on est dans cette première étape de la fabrication qu'on appelle le travail de rivière. Et là, en fait, il va falloir laver la peau maintes et maintes fois puisqu'elle va subir plusieurs opérations. Notamment, c'est ce qu'on appelle le reverdissage. Il faut laver la peau à grande eau dans la rivière. À la fin du 19e siècle, ça va se faire dans des moulins, des grands foulons qui vont tourner et ça va aller beaucoup plus vite. Mais tout au long du 19e siècle, à Rennes, c'est dans la rivière. Donc les tanneries sont installées près de l'eau. Ensuite, une fois qu'on a lavé, il faut épiler les poils. Et là, on va passer la peau dans différents bains de chaux de plus en plus concentrés. Une fois que la peau est bien imbibée de chaux, on la place sur un chevalet. Et avec un couteau qui n'est pas tranchant, on va racler et les poils vont tomber de part et d'autre. À nouveau, il faut laver la peau, puis ensuite ressortir la peau et là, la retourner et racler tout ce qui reste au niveau des viandes, de la graisse, sur la face interne. Et cela se fait aussi avec un couteau, mais cette fois-ci tranchant. Et là, attention à ne pas couper la peau ni à la trouer, parce que sinon, on abîme la matière première. On relave la peau et ensuite, une dernière étape avant le tannage en tant que tel, c'est le gonflement des peaux. C'est-à-dire qu'on va préparer les peaux dans des bains qui vont être concentrés avec des écorces de chêne, en fait, qui vont être concentrés en tanin. Et on va dire que ça prépare la peau à la phase ultime qu'est le tannage et qui va se passer à l'extérieur des ateliers, dans les cours.
Finalement, c'est quoi le tannage ?
Alors, le tannage en tant que tel, c'est vraiment cette opération où, en fait, le pouvoir tannique, le tanin qui est dans les écorces de chêne, va passer à travers la peau, à travers la structure de la peau et va modifier cette peau qui est vraiment un matériau qui va pourrir, donc putrescible, en un matériau imputrescible qui est le cuir et qui va résister dans le temps.
Donc on y est là, au tannage.
Voilà, alors ça y est, on est dans la cour de l'atelier. Faut s'imaginer, voilà, une cour qui est vraiment percée de fosses où on va réaliser un millefeuille. On va poser donc les pots sans poils ni graisse au fond et on va recouvrir d'écorces de chêne broyées qu'on appelle le temps. Et on fait un millefeuille et on remet des pots et on remet des écorces de chêne. On couvre le tout avec un chapeau d'écorce de chêne et on abreuve la fosse. Et on va laisser cette opération chimique se faire. Et au bout de 3 mois, on ressort les pots, on fait une incision sur l'une d'elles pour vérifier que l'intérieur de la peau commence à se transformer en cuir. Et l'idée, c'est comme un rôti. Certains rôtis, il faut qu'ils soient cuits à cœur. Et bien, le tannage, c'est pareil. Et donc, au bout de 3 mois, on réitère l'opération. On remet les peaux dans d'autres fosses avec des nouvelles écorces. Et ça, durant 18 à 24 mois. Donc, c'est un processus qui est très, très long à l'époque.
Et aujourd'hui, ça, c'est des délais qui ont été compressés ?
Alors, tout à fait. Et ça commence dès la fin du 19e siècle avec l'essor de la chimie. La chimie va permettre de réduire ces temps de fabrication. Aujourd'hui, selon le procédé technique, si on utilise par exemple des sels de chrome, du début du processus jusqu'à la fin, il faut une petite semaine. Donc, ça va très vite. Là, on a encore en fait des tanneries qui travaillent aujourd'hui avec des procédés anciens, même s'ils utilisent effectivement des intrants chimiques, des machines. Mais là, dans cette tannerie, il faut à peu près 10-12 mois de mise en fosse pour pouvoir avoir du cuir. Donc ça reste long encore. Là, c'est la dernière étape ultime, ce qu'on appelle l'atelier de corroyage et de finissage. Donc, c'était un atelier, en fait, qui était soit attenant à la tannerie, soit c'était distinct. Donc, une fois que les cuirs sont sortis des fosses, il faut les faire sécher. Et en fait, le cuir, il va sécher dans des séchoirs ou à l'abri du soleil s'il est en plein air, parce que sinon, il devient noir à cause des rayons du soleil. Et le cuir, une fois qu'il est sec, il est dur et cassant, mais vraiment comme du carton. Donc là, les dernières étapes vont consister à l'assouplir. Et donc, on va le huiler. Et on l'huile notamment avec de l'huile de morue. Et c'est ça qui va donner la particularité de cette odeur, en fait.
Qu'on sent, là. On la sent.
Voilà, on la sent. On a un peu tendance à se dire, ah, mais l'odeur du cuir est si particulière. Mais c'est grâce à cette huile, en fait. Sinon, ça a peu d'odeur. Et puis, eh ben, il va falloir aussi travailler le cuir en surface pour qu'il ait un aspect esthétique. Si on veut le colorer, eh ben, c'est à ce moment-là que les colorations vont se faire, les vernis, etc. Et là, enfin, le cuir est prêt à être façonné pour fabriquer différents objets.
Partie 3, Rennes et ses tanneries. Donc on revient vraiment sur notre territoire qui porte l'histoire du cuir.
Oui, c'est ça. Rennes, c'est vraiment l'exemple d'une ville à l'époque productrice de cuir. Il faut s'imaginer que le cuir, à l'époque, après la Révolution française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le cuir, c'est un peu le plastique d'aujourd'hui. On avait du cuir de partout. Donc, il y avait une très forte production. Et comme je l'expliquais au début, Rennes, c'est une ville où il y a de l'élevage, où on est en Bretagne, il y a du sel et en plus l'impôt sur la gabelle n'est pas payé. Et puis à Rennes, on a la Vilaine, donc cette rivière qui est vraiment importante et qui est indispensable pour les tanneries. Donc on voit en fait à travers la carte interactive qu'il y a au milieu de la salle et à travers 3 diaporamas qui sont projetés, en fait on nous explique que l'implantation de ces tanneries va suivre l'évolution de la Vilaine et aussi de la politique économique qui est menée par la ville de Rennes. La Vilaine, il faut s'imaginer, avant la canalisation, c'est vraiment un cours de rivière sinueux avec des méandres, des bras morts. Et là, vous avez plein d'activités autour, aussi bien les tanneries que les lavandières, que les minoteries, etc. Et puis, c'est aussi une rivière qui sort beaucoup de son lit, où il y a des grosses crues. Donc, au XIXe siècle, on décide de la canaliser et on décide d'adopter une politique hygiéniste de plus en plus drastique, parce que les riverains se plaignent notamment de l'activité des tanneurs qui, effectivement, hein, se servent de la Vilaine comme d'un égout. Donc, progressivement, les tanneries qui étaient au sein de la ville vont aller s'installer dans les faubourgs de la ville. Et avec le 19e siècle, on va avoir une concentration des tanneries qui vont même s'agrandir, et les très grosses manufactures vont s'implanter dans les plaines Saint-Martin.
Est-ce qu'il en reste des traces dans Rennes de ces tanneries ?
Ah bah alors non, et là ça a été le défi de l'exposition, c'est de parler de cette histoire alors qu'il n'y a pratiquement plus rien en fait. On a quelques noms, vous avez par exemple la rue de la Parcheminerie. Donc le parchemin, c'est aussi un travail de la peau. Généralement, les tanneries s'installaient aussi, faisaient suite à ce travail de parchemin. Rue de la Baudrerie. Donc dans le nom des rues, on a des traces. Et puis il y a un séchoir, pas loin des plaines Saint-Martin, qui est encore présent et qui a été transformé en logement. Mais c'est tout. Mmh. Donc il fallait révéler cette histoire d'une manière ou d'une autre. On va voir en fait que y a certaines personnalités locales qui ont une activité au sein de la municipalité, donc comme Edgar Le Bastard, qui lui est maire de Rennes au 19e siècle, et ben il est également entrepreneur et patron d'une grande manufacture de tannerie. Parce que c'était un moyen pour ces grandes familles bourgeoises aussi d'investir des capitaux qui pouvaient ramener aussi des bénéfices très importants en fonction de la situation géopolitique de la France, en fait. La Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, effectivement, là, l'économie du cuir se cassait la figure. Mais si vous aviez certains conflits militaires extérieurs, eh bien là, il fallait habiller, équiper des soldats. Donc là, l'activité du cuir reprenait de plus belle et permettait des débouchés colossaux pour certaines manufactures.
Donc, quatrième partie, une diversité de cuirs et de métiers.
C'est ça. Donc là, on reprend le fil de notre histoire. Et effectivement, le cuir a été fabriqué et maintenant, il va être transformé. Et là, en fait, le dilemme, ça a été de choisir, en fait, quelques métiers de la transformation, parce qu'il aurait fallu faire une exposition à part entière sur ces métiers. Donc, on a la chance, en fait, d'avoir le témoignage de trois artisans, trois femmes, une bottière, une maroquinière et une relieure, qui nous parlent de leur métier, de leur savoir-faire, et puis de ce rapport assez intime avec cette matière qui est assez spécifique. Donc là, on propose en fait une matériothèque aux visiteurs avec vraiment l'invitation de toucher différents cuirs. Donc on voit aussi bien qu'on a des très grands cuirs quand ce sont des bovins, des cuirs beaucoup plus fins et beaucoup plus souples lorsqu'on utilise de la peau d'agneau, notamment pour faire de la ganterie. Et puis on a des cuirs très particuliers, comme les cuirs d'autruche, où là on voit vraiment le grain du cuir très spécifique. Et on a souhaité montrer dans une vitrine, alors ces cuirs-là sont un peu plus délicats, donc c'était difficile pour nous de les mettre en accès libre, mais de montrer en fait les cuirs de poisson. Et on voit en fait visuellement, c'est flagrant, que le cuir de saumon, en fait, rappelle plutôt la peau de serpent, notamment du python.
Et cinquième et dernière partie, un animal à l'origine. Alors, il y a plein de choses différentes, peut-être pour aller sur les imaginaires, non ?
Notamment parce que le cuir, c'est une matière singulière et qui, en fait, est fortement chargée symboliquement. Et pourquoi ? Eh bien, c'est bien son origine animale qui en fait cette singularité. On présente aussi des peaux de bêtes sauvages qui nous ont été prêtées par le Muséum de Nantes pour là évoquer que effectivement toutes les peaux peuvent être tannées, mais légalement, ce n'est pas possible. Et puis après, la dernière partie de cette section, c'est effectivement toute cette charge symbolique qu'il y a autour du cuir. À commencer par la peau de bête que, par exemple, Hercule se revêt, cette peau de lion de Némée qui revêt, pour évoquer aussi sa force, mais aussi sa bestialité, puisqu'il a été amené à tuer femme et enfant un soir de folie. Il y a une charge aussi érotique de cette matière, qui est une seconde peau, et qu'à différentes époques, on va se servir de cette peau, soit pour cacher certaines parties, soit au contraire en révéler d'autres, à travers des panoplies en cuir. Et à travers certains costumes, comme des costumes en fourrure de carnaval ou portés à la Saint-Nicolas comme le Krampus, là on révèle plutôt le côté bestial de la part humaine.
Le Krampus, il vient de quel coin du monde ?
Il vient de Belgique, du musée du carnaval de Binche, qui nous ont prêté ce superbe costume.
Ma dernière question, c'était de vous demander, depuis l'inauguration de l'exposition, on sait qu'on est à Rennes, qui est un territoire, il se trouve aujourd'hui militant, notamment sur les questions de bien-être animal, et on sait que le cuir fait débat aujourd'hui quand on parle de bien-être animal. Est-ce que vous avez des retours de spectateurs qui y réagissent ?
L'exposition a pour but de poser, en fait, des questions et d'apporter des éléments de réponse, et notamment autour de ces enjeux qu'il y a avec le cuir. Nous, ici, on a pris le parti pris dans l'exposition de parler du cuir qui est fait à partir d'animaux élevés pour leur viande ou pour la consommation de lait. Donc là, c'est en fait la peau, la dépouille qui est récupérée. L'exposition part de ce point-là pour ensuite ce déchet, au lieu qu'ils partent brûlés, être valorisés et produire un matériau. Après, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'exposition que tout le monde avait à y gagner sur le bien-être animal, en fait. Parce que même le tanneur qui veut produire un cuir de qualité a tout intérêt à avoir des peaux qui proviennent d'animaux qui ont été élevés dans de bonnes conditions pour avoir le moins de coups de corne, d'accroche, d'entailles ou de maladies, et avoir une matière de qualité. Un cuir qui est fait dans de bonnes conditions de production, c'est un cuir qui peut durer mais des années et des années. Et donc éviter une surconsommation de matière aussi.
Lyrique, ça pèse, j'rappe les oiseaux stèse. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta délice. Ce matin, j'suis bien dans ma peau, j'ai la pêche, telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaines. Te dis pas frapper par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. J'suis né blasé sans un sou, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. J'suis entré en collision avec mes obstacles. Tourne le pire à la dérision, l'offre en spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse les rires faire mon truc, me suis fixé ce but. Si j'arrive à mi-chemin, je ferai date comme ce tigre tué par un caniche nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. À 2 minutes de la victoire, on peut viser, tomber ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir touché l'horizon? J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner, viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner, viens la vitesse de mon son frison. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que de poils possède un bison. J'enchaîne les brochettes de problèmes hyper vitesse qui crochet. Le revers de la médaille, c'est mon emblème. Tu déconnes avec tes tonnes de projets, ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Viens, j'ai fait le plein de patience, y'a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Qui même me suive amène les cuivres, les guitares, du pain et de l'huile d'olive. Le seul raccourci m'impose, ne suis pas les panneaux, rien n'indique la bonne destination. Action, laisse-moi kiffer ma passion, m'échapper car à chaque page, des marionnettes rêvent qu'on m'isole. Plus on est de fou, mieux on évite la camisole. Je te fais plein de feintes, pas de ceux qui démissionnent le plan. Je trouve en bas à gauche, juste après de Rémi-Sol. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner, viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner, viens la vitesse de mon son frison. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison. Avance, laisse les claques sonner, viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison. Avance, laisse les claques sonner, viens la vitesse de mon son frison.
Toucher l'horizon par Oxmo Puccino, un titre qu'on retrouve sur l'album Cactus de Sibérie qui est sorti en 2004, il y a bientôt 20 ans donc, sur le label De Label. C'était le troisième album à l'époque de ce rappeur français qui en a sorti quatre autres depuis. Vous êtes en train d'écouter L'Arène sur Canal B, une émission qui vous ouvre son micro. Si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec une association ou autre type de structure, parfois des collectifs, mais aussi des institutions, si vous avez un sujet à nous soumettre, n'hésitez pas à nous en faire part par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer une rencontre ici au micro en studio à la maison des associations de Rennes. Je peux aussi venir à votre rencontre sur le terrain sous forme de reportage et parfois nous annonçons aussi plein d'événements à travers des recommandations du jour et c'est l'heure. Et oui, car à chaque fin d'émission, on termine avec une recommandation, des conseils de choses à lire, à voir, à se mettre dans les oreilles quand il s'agit de podcasts. On en profite aussi pour faire des focus sur certains événements dans la région rennaise. Et là, eh bien, cette saison, on annonce aujourd'hui un marché de Noël solidaire. Rendez-vous dimanche 17 décembre de 11 à 19h chez Cœur Résistant. Leurs locaux, ils sont situés 4 ruelles du Faux-Pont, c'est juste en face du TNB, pour donc un marché imaginé par la Rennaise d'édition, une association d'éditeurs qui a été créée il y a 10 ans je crois, et on y retrouve notamment les éditions Guater, entre autres éditeurs locaux. C'est une quatrième édition pour cet événement du marché de Noël solidaire qui réunira des stands d'artistes, de créateurs ou encore d'éditeurs locaux. Ça fait sens de quoi faire ces emplettes de façon durable pour les fêtes de fin d'année et de dénicher des savons, des objets en céramique ou encore des bijoux. Également sur place, de quoi boire et manger, une tombola dont les tickets seront en vente la veille lors d'un karaoké qui est organisé dans le bar Le Mot de Cause, et les fonds récoltés iront soutenir le projet de Cœur Résistant, structure d'aide alimentaire bien connue. Au passage, on retrouvera aussi sur place le réseau de ravitaillement des luttes du pays rennais, réseau par ailleurs mis en lumière le même jour juste en face de Cœur Résistant, c'est-à-dire au TNB, le Théâtre National de Bretagne, avec une projection à 15h45 du film Nourrir la lutte, qui a été réalisé par Camille Morin il y a un an, à la rencontre donc du réseau de ravitaillement. Voilà pour la recommandation du jour. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de l'Arène. Le détail ainsi que les podcasts sont à retrouver en ligne sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.